Si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vu ce matin, je ne sais pas.
Une fois qu'on parlait beaucoup des enfants, champ de bataille version enfant, moi j'ai vu le 6 juin, c'est les adultes qui jouent à la guerre telle que vous la décrivez, qui s'habillent avec le costume. C'est aussi une façon de regarder les adultes qui, aujourd'hui, alors qu'il y a de moins en moins de récurrents, se réapproprient cette histoire-là, collective là aussi, puisque cohabitent parfois des problèmes de chronologie aussi énormes. Il y a à la fois des militaires contemporains, il y a aussi des militaires, des Argentins en kilt, il y a n'importe quoi.
Ah oui, non, mais c'est.
La réalité d'aujourd'hui de la commémoration ressemble beaucoup à ce
que vous avez. De toute façon, tout ce qui est lié à la guerre, ça rend les adultes enfants, enfantins. Y a énormément d'adultes qui jouent à des jeux où ils s'étripent en ligne avec toutes les armes qui existent aujourd'hui refaites parfaitement. Il n'y a vraiment pas que des enfants qui jouent à ça. Et c'est vraiment ceux qui jouent au paintball. C'est l'esthétique de guerre est toujours présente quasiment dans les jeux. On est très proche du sport aussi, où il y a des. Voilà, le sport, il y a quand même souvent une équipe contre une autre, et toute la terminologie qui tourne autour du sport fait souvent penser à la guerre. Oui, il y a beaucoup d'adultes qui sont de grands enfants et qui continuent à jouer à ça. D'ailleurs, c'est là pendant le montage, il y a beaucoup de parents qui passent avec leurs enfants sur la digue là, voilà, ils sont. C'est plus les parents restent longtemps. Hein, ils ont du mal à partir aussi, mais ils ont une caution. Hein, c'est comme ceux qui vont voir des dessins animés au cinéma avec leurs enfants en disant que c'est pour les enfants. En fait, ils sont très contents d'aller. Donc oui, c'est.
Moi, je vois une très belle interprétation du contemporain de ce qui se passe aujourd'hui.
Justement, oui, je me demande si c'est pas aussi le rapport qu'on a à l'histoire aujourd'hui qui produit ça dans les années 20 ou dans les années 50. Je suis pas sûr qu'on aurait eu, on aurait traité de la guerre avec cette légèreté. Est-ce que c'est pas lié au sentiment que, d'une certaine manière, on parle de la fin de l'histoire? On n'a plus la perspective de la menace d'une guerre, en tout cas sous la forme qu'elle avait au XXe siècle.
Mais on est amnésique, donc ça c'est sûr que. Parce que si ça. Normalement, statistiquement, ça ne devrait pas tarder. C'est quasiment tous les. Et. Peut-être qu'après. Des événements comme ça, ça va changer, mais je ne sais pas. Mais en même temps, on nous présente aussi la guerre comme ça. Même les recruteurs présentent la guerre comme ça. En gros, je ne sais pas si vous avez vu des spots de. Si vous aimez jouer aux jeux vidéo, venez faire l'armée. C'est vraiment ça. Le message, c'est ça. Avec que des images de jeux, de simulateurs. C'est vraiment un vecteur, hein, l'amusement, le défi pour aller à la guerre, c'est ce qui est utilisé pour emmener les gens. Ouais. Donc, je ne sais pas si. Je sais pas comment ça se passait dans les années. Dans les années 10, juste avant la première, si on jouait pas à la guerre aussi, mais. Après ici, ça a vraiment. Évidemment, c'est le débarquement qui a changé. Je pense qu'on peut plus jouer à. On peut plus jouer à la guerre sur une plage sans que tout le monde pense au débarquement. Il y a quelque chose de. De créer. Les châteaux de sable, c'est un peu moins, mais. Moi, j'entends des commentaires, dès qu'ils voient un char sur la plage, ça y est, c'est le débarquement. j'entends 30 fois par jour que je suis en train de faire un petit débarquement. Mais donc, c'est que l'association se fait directement. Il y a aussi, parce qu'en fait, en ce moment, je travaille, je vous montre juste un dernier truc. En fait, je récupère des maquettes de Bouygues, de bâtiments monstrueux qui construisent partout en France de façon automatique, hein, des espèces d'ensembles architecturaux pour les classes moyennes. C'est de l'architecture consensuelle, c'est de l'architecture où tout est neutre, hein, les couleurs sont neutres, les hauteurs, les largeurs, bref. Et c'est vraiment des bâtiments qu'on trouve partout. Et donc moi je les prends et je leur fais subir un traitement de choc. Hein. Et donc je me retrouve avec des maquettes. Donc c'est des maquettes qui servent à se projeter dans un bâtiment qui n'est pas encore construit à ce moment-là, quand la maquette est montrée au client, mais qui servent à vendre un projet. Et voilà, moi je passe derrière et je les détruis, donc les bâtiments se retrouvent avec une sorte de guérilla urbaine et une maquette détruite, ça n'a aucun sens. Hein. Enfin, c'est-à-dire que quand je dis que ça n'a aucun sens, c'est que voilà, encore une fois, une maquette, ça sert à construire un bâtiment, ça sert à voir un bâtiment avant qu'il soit construit et non pas à le voir détruit. Le projet d'Ouistreham, il vient aussi de tout ce travail. J'en ai plein des maquettes que je travaille comme ça, qui est partie de cette petite guerre. Parce que évidemment, quand j'attaque cette maquette, je suis obligé de trouver l'échelle de la destruction aussi. Il faut que la destruction soit à l'échelle. C'est-à-dire que si j'y vais trop fort, la maquette explose et n'est plus visible. Donc je suis obligé d'y aller avec des tout petits coups de perceuse ou des allumettes pour créer des mini-incendies. Je suis obligé de tout faire en mini. Et donc je refais une petite guerre, une petite guérilla urbaine. Je fais en général qu'une façade du bâtiment. Donc il y a une façade qui est comme neuve, parce que en général, les promoteurs, ils montent des maquettes flambant neuves. Et donc, il y a une façade vraiment d'origine et une façade complètement attaquée. Et donc, voilà, j'étais avant de commencer à réfléchir au projet de Ouistreham, j'étais dans ces préoccupations-là. Je vous montre juste ce que ça fait aussi. Il y a eu une page d'un journal, c'est un journal culturel, hein, mais un journal qui a la forme d'un tabloïd, qui a la taille de Libération. C'est un travail à trois, où moi j'ai fait les pièces. Hein. J'ai un ami photographe qui a fait les photos et notre ami qui a écrit les textes. Et en fait, c'est cette collaboration qui met en place un vrai faux événement. Et dans le texte, voilà, il y a une sorte d'événement tragique, un début de guerre, on ne sait pas bien, qui vient frapper un quartier. Mais le texte est écrit de telle façon qu'au bout d'un moment, les descriptions qui sont décrites sont des descriptions de la maquette et pas du bâtiment. C'est-à-dire que le texte parle de plexiglas déformé, de choses comme ça qui ne correspondent pas du tout. Donc voilà, on est vraiment dans une fiction qui commence et qui qu'à des fondements qui sont déjà faux, parce qu'une maquette est entièrement fausse. Donc, les gens qui ont eu ce journal dans les mains, quand on regarde les photos, pareil, les photos, à première vue, ça passe. Hein, et puis, si on regarde plus précisément, on sent qu'il y a un problème, que ce n'est pas du tout des vrais bâtiments. Donc, voilà, il y a une sorte de... Voilà, il y a deux temps de lecture et c'est aussi comme ça que j'ai voulu travailler pour Wistfam, c'est-à-dire d'avoir un temps où on entre dans un lieu où on ne sait pas trop ce que c'est, l'architecture, on ne sait pas ce qu'on va voir, et puis après on entre dans une deuxième lecture qui est plus précise sur des petits événements. Donc voilà, c'est un... Le projet de Wistfam vient plus de ce travail-là que je faisais quelques mois avant de commencer à travailler.
Voilà. Merci. J'ai une question par rapport à la réaction du public. C'est peut-être une interprétation personnelle, mais je situerais vraiment aux antipodes la pièce que vous avez créée pour le CHU de Rouen, et celle pour Wistfam, quoi. Moi, je la vois comme un regard... narquois un peu sur les commémorations, mais peut-être que je vais trop loin dans une interprétation personnelle, mais par contre la pièce du CHU de Rouen me semble assez traumatisant pour des gens qui auraient vécu ces moments-là, enfin, où ça nous plonge vraiment dans des souvenirs intimes ou dans une projection réelle, enfin, quelles ont été les réactions des gens?
Bah, des souvenirs intimes que personne n'a, là, par exemple. C'est ça aussi. Bah, je pense que c'est plus, encore une fois, les souvenirs qu'on a ou qu'on croit avoir, ils viennent plus du cinéma ou de la littérature. Et donc, quand on vit ça, c'est-à-dire là, on le vit vraiment, parce que le son est fort, quand même. Il est sourd, puissant et assez puissant pour faire tomber du sable, donc les gens ont une panique à un moment donné, ils ne savent pas si ça va vraiment leur tomber sur la gueule ou pas, donc ça joue sur cette peur-là, évidemment. Et en même temps, si on est à peu près conscient de l'endroit où on est, de l'heure de la journée et qu'on est en 2013 ou 2012, c'était présenté en 2012, on sait bien que voilà, qu'on est en train de vivre quelque chose qui n'est pas la réalité non plus. Donc,
ça ressurgit,
mais je ne sais pas si...
C'est aussi pour ça que les mémoriaux m'intéressent, parce que les mémoriaux, ça vient à la fois rendre hommage et en même temps réveiller, réouvrir des plaies parfois.
Alors moi, je ne dirais pas ça, je dirais plutôt que c'est... montrer aux générations futures que c'est pas la peine de recommencer.
Oui, mais ça marche jamais.
Oui et non.
Je me demande si un des problèmes dans l'activité mémorielle de la région, parce que j'ai pu la saisir, là, justement ce passage entre des gens qui sont des vrais témoins et des gens qui n'en sont plus et qui sont obligés de faire appel à la mémoire de quelque chose qu'ils n'ont pas vécu, sauf par des témoignages indirects. Par exemple, le mémorial de Caen, il remplace le vécu qui est assez indicible par une spectacularisation. C'est quand même de l'image, du film, c'est-à-dire du spectacle. Moi, j'ai vraiment ressenti, ça fait longtemps que je l'ai arrivé. C'est vraiment une transformation.
Il y a une
perte totale aussi de la mémoire, de réel, de ce que vous évoquiez.
Il y a une volonté que ça a été pour les gens qui l'ont vécu tellement indicible. Faut pas, parce qu'effectivement, dans 100 ans, 200 ans, ça sera très vieux. Certes.
Il y a un
côté commercial, je suis entièrement d'accord.
Il y a une autre histoire qu'on voit bien.
Bien sûr. Mais quand même, je pense. Bon, quand on s'imagine, ça touche le même, pas tout à fait la même chose, mais bon, quand on s'imagine que les jeunes juifs, qui sont des descendants de ceux qui ont été dans les camps, se font graver sur le bras le numéro de leur grand-père ou arrière-grand-père qui était dans les camps. Uniquement pour que ça ne recommence jamais. C'est qu'il y a quand même quelque chose derrière. Enfin, je crois.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une approche pour le spectateur complètement différente entre
ce que tu as fait à Rouen au CHU et ce qui est proposé là à Ouistreham. Ouais. Le rapport, enfin, je pense que c'est ce que voulait dire Karine, le rapport à l'œuvre n'est pas le même, on est moins dans l'empathie, dans le sentiment, c'était plus créer un sentiment. Et à Ouistreham, on est plus dans un recul, ironique ou non, mais dans un regard plus distancié peut-être à cette histoire. En tout cas pour le spectateur et tel que tu as essayé de le faire ressentir au spectateur.
Bien sûr, parce que encore une fois, l'installation, c'est le mémorial en lui-même, enfin, c'est ce bâtiment. Donc il y a déjà un filtre. Hein. Là, je passe pas directement la pièce au visiteur qui se connecte comme à Rouen dans le CHU où là j'ai mis le visiteur dans une situation somme toute désagréable mais qui est d'un point de vue de la sensation qui est sûrement assez proche de la réalité donc et en même temps ça avouait tout de suite son caractère mis en scène. Mais par exemple, sur les mémorials, je pensais aussi au mémorial du 11 septembre à New York. Il est très bizarre parce que là aussi, c'est que un film. Il y a quelques documents. Et il y a un film projeté en 4:3 de toutes les images qu'on a vues. Ça tourne en boucle. Et c'est vraiment très étrange le rapport qu'ils ont mis en place. Parce que c'était il y a une dizaine d'années. On a tous en tête ces images. Et le seul souvenir qu'ils veulent nous laisser, c'est les mêmes images en boucle. De toute façon, on dirait un film hollywoodien, mais depuis le début, cette histoire, c'est un film hollywoodien, mais là, c'est projeté en énorme, avec le son très très fort, et c'est incompréhensible. Moi, je ne comprends pas ce type de dommage. Et en tout cas, ils se sont vraiment posé la question s'ils allaient construire un mémorial ou reconstruire une tour pour dire on avance, on va de l'avant et on oublie tout. Enfin, on n'oublie pas tout, mais au moins on reste pas. Et donc l'option qu'ils ont prise, c'est de laisser les deux trous. Il y a deux trous, deux fontaines avec l'eau qui déborde. C'est plutôt pas mal. Là. C'est toujours une question de est-ce qu'on reconstruit, est-ce qu'on détruit sur le palais de justice de Rouen, il y a des impacts de balles partout, qui n'ont pas été refaits. C'est très étrange parce qu'on arrive à un moment donné, on tourne au coin d'une rue et on voit ce bâtiment qui est incroyable et qui est perforé de partout. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de discussions sur ça. Est-ce qu'on bouche les trous ou pas ?